J'aime bien ce récit de l'apparition de Jésus au lac de Tibériade avec la pêche miraculeuse. C'est un beau récit de retrouvailles, avec une sympathique partie de pêche, avec un moment de partage sur la plage, et tout cela est très joli. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que, mis à part de dire que Jésus serait l'inventeur du barbecue, puisque en effet, il fait des grillades avec des poissons et du pain sur la plage, est-ce que vraiment cela peut être une bonne nouvelle pour nous ? Alors, si on le lit tel quel, est-ce que l'on se dirait que la bonne nouvelle, c'est que si on croit en Jésus, on pourra faire des pêches extrêmement abondantes ? Mais je vous avoue que sans doute suis-je un mauvais chrétien, mais je ne crois pas que si vous êtes marin-pêcheur, votre foi vous permettra de faire des pêches plus abondantes que vos collègues qui ne croiraient pas en Dieu. Alors du coup, comment pouvons-nous nous approprier ce texte ? Je ne veux pas me poser la question de savoir ce qui s'est passé vraiment, mais en quoi ce récit peut nous rejoindre, si vous voulez, nous, qui ne sommes pas forcément ni marins-pêcheurs, et si nous le sommes, n'attendons probablement pas de Dieu qu'il fasse ce genre de miracle. Alors évidemment, vous vous en doutez, il y a certainement là un petit décodage à faire, et il faut essayer de comprendre que tout cela peut nous toucher si nous le comprenons d'une manière quelque peu symbolique. Le décodage n'est pas très compliqué, parce que la mer, dans la Bible, représente à peu près toujours la même chose. La mer, c'est l'épreuve, c'est la mort, c'est la difficulté, c'est le lieu où l'on perd pied, où l'on se noie, et où on risque même de penser que l'on peut perdre sa vie. Et la nuit, ce moment où il pêche, c'est la même chose. La nuit, c'est l'obscurité. Et j'imagine que chacun de nous pouvons comprendre cela. Quand nous sommes dans des situations où nous pouvons dire « là, je suis dans le noir parce que je ne vois plus de lumière, soit que je ne comprends pas où je vais, soit parce que tout m'apparaît sombre et que je ne vois dans ma vie aucune lumière, aucune lueur d'espérance, aucune luminosité d'espoir ou de quoi que ce soit. Et lorsque je suis moi-même dans une situation où en plus je me dis que je risque de perdre pied, de me noyer, ça je comprends ce que cela peut vouloir dire. Et je crois que chacun de nous pouvons nous mettre dans cette situation des disciples qui se sentent même abandonnés de leur Seigneur. Ils croyaient en Jésus et voilà qu'ils se retrouvent tout seuls, sans ce Christ de leur foi, perdus dans une situation extrêmement angoissante. Alors là, ils font quelque chose de bon, c'est que pêcher dans la mer, ça c'est un thème aussi qui revient plusieurs fois dans la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est rechercher dans tout ce lieu de difficulté, rechercher dans cette épreuve si l'on arrive à y trouver quelques parcelles de vie. Et ça se comprend parce que, en plus il y a un petit jeu de mots en hébreu. En hébreu, le poisson, ça se dit « dag ». Et c'est juste l'anagramme complet d'un autre mot que vous connaissez, Gad, qui est devenu un prénom d'ailleurs, un prénom juif. Et Gad, ça veut dire le bonheur. Et ainsi, le poisson, c'est le bonheur en quelque sorte, c'est une parcelle de vie. Et le poisson, il est formidable parce que lui, il arrive à vivre même là où nous ne pouvons pas le faire. Et donc le poisson, c'est extrêmement positif pour la pensée biblique, c'est le symbole de la vie qui arrive à vivre même dans la mort. C'est pourquoi d'ailleurs, vous le savez, ça a été le premier symbole chrétien qui, avant de mettre des croix partout, représentait le Christ comme un poisson. Et ce poisson, c'est le symbole justement de celui qui, par miracle ou l'aide de Dieu, arrive à vivre même dans un milieu où normalement on ne devrait pas pouvoir vivre. Et donc ses disciples, ils font une belle chose. Ils se disent, dans cette situation angoissante, difficile, d'épreuve, où je suis, dans ce noir opaque, eh bien on va essayer de puiser des parcelles de vie, de bonheur, de lumière et d'espérance. Et ça, on le dit effectivement que c'est possible. On le répète à tout le monde, on dit, vous savez, même dans les plus grosses difficultés ou dans les épreuves, on peut en tirer quelque chose de bien. Ou même si dans votre vie il y a de gros malheurs, vous pouvez quand même dans votre vie trouver quelques parcelles de lumière et de vie et de joie qui puissent vous faire vivre. Mais là, ce texte est terrible parce qu'on voit les disciples qui pêchent toute la nuit et ils y croient, ils essayent et ils ne trouvent rien. ils ne trouvent rien. Et ils ne trouvent rien parce que, je dirais, les bons conseils sont parfois faciles à donner, mais à vivre, pas tant que ça. Et on a beau dire aux gens, vous savez, même dans les épreuves, vous pouvez trouver des choses qui vous font vivre. Eh bien, moi, j'en ai vu des gens qui disent, écoutez, monsieur le pasteur, moi, j'ai cherché, je ne trouve rien. C'est les disciples. Et ils arrivent comme ça, découragés et désespérés. Et là, ils rencontrent le Christ. Alors, vous me direz, ça y est, le pasteur va nous dire, c'est la prédication évangélique type. Ma vie était une horreur, j'étais dans la souffrance, les épreuves, etc. Je rencontre Jésus, et à ce moment-là, tout change, et je deviens joyeux, et ma vie devient tout à coup une bénédiction. Bon, c'est un raccourci qui me semble un peu facile. Parce que ce Jésus qu'il rencontre, il n'est pas si commode que ça. D'abord, il ne leur donne rien. Bon, si ma prédication évangélique était juste, j'aurais dit, ils reviennent sur la plage, ils rencontrent Jésus qui leur dit, vous en faites pas, il n'y a pas de souci, moi je vais vous donner plein de poissons. Jésus ne donne rien. Il est sur la plage et il attend. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Eh bien, oui, je crois qu'il y a une bonne nouvelle quand même, mais qui est peut-être un peu plus compliquée que ce que l'on pourrait croire. D'abord, une bonne nouvelle, c'est que ils pensaient que Jésus était loin d'eux, et en fait, même si on ne cherche pas vraiment le Christ, il se met sur notre route pour nous aider. Et donc cette bonne nouvelle, voyez-vous, c'est que, certes, on dit dans nos prédications, qui cherche trouve, si vous cherchez le Christ, vous trouverez le Christ, qui sera une source de lumière dans votre vie. Eh bien, je dirais que même si vous ne le cherchez pas, Jésus, néanmoins, il est là devant vous. Et peut-être que vous ne le reconnaissez pas, comme c'est le cas pour les disciples. Mais en tout cas, il est là. Et donc, en tout cas, première bonne nouvelle, le Christ n'est jamais loin. Même si vous croyez qu'il l'est, il n'est jamais loin. Et il est toujours sur notre route pour nous aider. Et là, je dirais, même s'il ne fait rien, eh bien, il est là. Il est là et c'est déjà beaucoup. Mais c'est un peu toute la question du mal, finalement, quand on se dit, mais vous me dites que Dieu est là près de moi, mais finalement, qu'est-ce que ça change dans ma vie qu'il soit là, si je suis toujours dans le problème? Eh bien, écoutez, on verra, mais le simple fait qu'il soit présent est déjà beaucoup. Et donc, je ne suis pas sûr que Dieu puisse arranger tous nos problèmes matériels sur terre. Je suis même sûr qu'il ne le peut pas, pour tout vous dire. Mais néanmoins, il est présent. Il est présent à nos côtés, et en tout cas, dans les plus grandes difficultés, on n'est jamais seul. Parce qu'on a toujours un ami avec soi. Et un ami, quand on est dans la difficulté, ce n'est pas forcément celui qui vous prête de l'argent. Cet ami, c'est celui qui est avec vous et qui marche à votre côté, qui vous aime et qui vous met la main sur l'épaule. Eh bien, Dieu est peut-être déjà cela, ce compagnon qui nous accompagne et qui compatit avec nous. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que, finalement, il va quand même débloquer la situation. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire. Alors, il va débloquer la situation, mais comment va-t-il faire? En posant une question, ça m'intéresse, parce que je pense aussi, que très grande conviction de notre part, ici dans cette Église, c'est que là où l'Évangile, où le Christ nous aide le plus, ça n'est pas tant en nous donnant des solutions toutes faites, c'est en nous aidant à nous poser les bonnes questions. Et donc souvent, une question peut débloquer, parce qu'une question, c'est quelque chose qui ouvre une porte et qui nous invite à chercher plus loin. Alors, la question que Jésus pose, c'est la suivante. Il leur dit, n'avez-vous rien à manger? Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, en quelque sorte. Enfin, il leur dit, n'avez-vous rien à manger? Et les disciples disent, eh bien non. En quoi est-ce que ça les aide? Eh bien, ça peut se comprendre de différentes manières. D'abord, peut-être que simplement, il aide les disciples à pointer du doigt leur problème. Et donc, n'avez-vous rien à manger? Les disciples disent non. Donc, les disciples reconnaissent leur problème et ils l'identifient. On prétend que c'est très bien et que lorsque l'on a déjà réussi à identifier son problème, son épreuve ou son mal ou ce dont on souffre, eh bien, on a déjà fait un grand pas, parce qu'après, on peut trouver des solutions. Le problème, c'est quand on est face à des problèmes qu'on n'identifie pas. Et donc, D'une certaine manière, ça leur permet d'identifier leurs problèmes, c'est très bien. Mais peut-être aussi que ça peut les inciter à se remettre en cause. C'est-à-dire, leur dit, vous voyez bien, votre démarche ne fonctionne pas, donc il faut trouver une autre solution, autrement dit. Peut-être faut-il le refaire autrement. Peut-être que vous pouvez revisiter ce que vous avez fait d'une autre manière. Alors il va effectivement les inviter à chercher autrement. Il va leur dire, retournez-y, mais ce coup-ci, jetez votre filet du côté droit. Bon, le côté droit, c'est le bon côté en Orient. Vous savez, le droit, c'est le positif, et la gauche, c'est le côté négatif. Et donc, dans une première lecture, je pourrais continuer ma lecture un peu, je dirais, moralisatrice. Ce qu'il leur dit, c'est, écoutez, vous cherchez, mais en fait, vous avez mal cherché. Et donc, je vous invite à chercher du bon côté. C'est-à-dire voir les choses autrement, voir les choses du bon côté. Et ça, c'est déjà bien. Parce qu'en effet, quand on regarde les choses du bon côté, peut-être qu'on peut trouver des choses positives. Donc, ce serait un petit conseil moral du jour, essayer de chercher du bon côté, pas du mauvais. Bon. Mais c'est plus que ça, parce que l'Orient, c'est le côté droit, oui, il faut que je vous explique ça, c'est compliqué, parce que le côté droit, c'est le sud dans les cartes juives. Parce qu'en effet, les cartes dans l'Antiquité étaient ce qu'on appelle orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient. Et donc, ils mettaient en haut l'Est, l'Orient, d'où vient le soleil, et ensuite, donc, le côté droit, ça devient le sud. C'est-à-dire que le sud, c'est le côté de la lumière, c'est ça que je veux dire. Donc, le côté droit, c'est le côté de la lumière. Et alors, il leur demande de revisiter les choses, peut-être, éclairées par la lumière, eh bien qu'est le Christ. C'est-à-dire que le Christ lui-même ne fait pas que de donner des bons conseils moralisateurs, il est aussi lui-même une lumière. Et quand on va rechercher, éclairé par le Christ, par l'Évangile, eh bien je pense qu'on peut trouver des choses que l'on n'avait pas trouvées avant. Mais on peut le comprendre encore autrement. Quand Jésus dit « N'avez-vous rien à manger ?», est-ce qu'il les invite à simplement verbaliser leur échec, autrement dit, et en disant bah, « Écoutez, reconnaissez que vous avez été mauvais, recommencez avec mon aide. » Ou est-ce qu'il ne leur pose pas une question pour lui ? C'est-à-dire que c'est lui qui dit « Bonjour les amis, vous auriez quelque chose à manger pour moi ?» Et donc, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Jésus leur demande de lui donner à lui quelque chose à manger. Et ça, c'est assez curieux parce que comment peut-on demander quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas ? Matériellement, ça n'est pas possible, mais dans le monde de l'humain, oui, c'est possible. Parce qu'en effet, on peut toujours donner du bonheur, même si on n'est pas joyeux, je dirais. On peut donner de la compagnie à quelqu'un, même si on se sent seul. On peut donner beaucoup de choses que l'on n'a pas soi-même. Et du coup, les disciples vont retourner pêcher, et ce coup-ci, non plus pour eux, mais pour Jésus. Formidable. Et donc, du coup, ils vont en trouver plein. Parce que là, il y a un petit secret aussi. C'est que quand on cherche pour soi-même le bonheur, on ne le trouve pas. Quand on cherche pour soi-même d'être aimé, c'est compliqué. Quand on cherche pour soi-même la paix, ce n'est pas facile. Mais si vous cherchez du bonheur pour donner aux autres, vous aurez plein d'idées et vous en trouverez à foison. Et si vous voulez donner aux autres de l'amitié, vous avez beaucoup à faire. Si vous voulez donner aux autres de la présence, de l'espérance, de la joie et plein de choses, eh bien, vous en trouverez plein, même dans votre vie, de choses à donner. Et ça, c'est un secret extraordinaire, parce que finalement, on trouve mieux pour les autres que pour soi-même. Et finalement, donc, ils vont effectivement faire cela, ils vont chercher, non pas pour eux, mais pour un autre. Et là, alors là, ils vont en trouver des montagnes et des montagnes. Et ils vont en trouver tellement qu'il y en aura même encore pour eux, à foison. Ça, c'est un grand secret. Parce que je pense que ce qui nous rend finalement le plus souvent malheureux, c'est notre égoïsme. Et c'est que nous sommes toujours à nous dire « j'aimerais que les gens pensent à moi, j'aimerais que les gens m'appellent au téléphone ». Je vois des gens isolés qui me disent « personne ne m'appelle ». Et vous appelez des gens ? Ah ben non, Bah oui, bah, si vous n'appelez personne, ça va être compliqué. Ah, j'aimerais trouver un peu de joie dans ma vie. Et pour vous en donner aux autres, ah ben non, ah ben ça ne peut pas marcher comme ça. Jésus a raison. Alors que si vous donnez de la joie aux autres, vous pouvez toujours en donner, vous trouverez toujours quelqu'un à aimer, toujours quelqu'un à réjouir, quelqu'un à aider. Et si vous le faites, eh bien vous en aurez évidemment beaucoup de reste pour vous-même. Alors c'est ça le miracle, vous disais-je. Donner de la joie est le meilleur moyen d'en trouver pour soi, et tout cela fonctionne comme ainsi. Mais, me direz-vous, là, c'est plutôt pour Jésus, donc Jésus, c'est pas n'importe qui. Alors là encore, si j'étais un bon croyant, je dirais, servez Dieu et Dieu vous le rendra, quoi. Mais non, ça n'est pas ça, lisez bien le texte. Les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne savaient pas que c'est Jésus. Donc quand ils voient cet homme-là, ils ne savent pas qui c'est. Et donc ils ne répondent pas à un ordre divin. Ils n'obéissent pas à l'évangile. Simplement, ils voient un quidam qu'ils ne connaissent pas et qui leur demande à bouffer. Et c'est pour ce type-là qu'ils ne connaissent pas qu'ils vont retourner pêcher pour lui donner à manger. Et donc ce Jésus, c'est vraiment celui qui est là devant moi que je ne connais pas. C'est mon voisin, mon enfant, mon mari, ma femme, ma mère, ma grand-mère, ou qui vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui est là devant moi et qui me demande et à qui je peux donner. Et c'est ça la clé d'entrée dans le royaume de Dieu, tout simplement. Et puis il y a encore une bonne nouvelle, vous disais-je, c'est que donc ils vont pêcher, ils vont ramener plein de poissons, ça je vous l'ai dit, et il y en a même autant pour eux. Et là, nous dit le texte, ils arrivent sur la plage et ils trouvent le barbecue tout près. Avec, il faut regarder le texte en détail, toujours dans la Bible, hein, le texte nous dit que quand ils arrivent sur la plage, il y a un feu et que sur le feu, il y a déjà des poissons et du pain. Et ça m'a touché parce que, vous voyez, toujours dans ma petite prédication un petit peu volontariste, je dis, si vous donnez, vous en aurez pour vous. Eh bien, certes, cherchez comme il le faut, mais nous avons là en plus une bonne nouvelle. C'est que même s'il n'en avait pas trouvé, eh bien Jésus lui-même leur aurait donné du pain et des poissons. C'est-à-dire qu'il y a dans le Christ et dans la présence de Dieu une nourriture et une joie toujours disponibles. Et donc, ça n'est pas simplement ce côté un peu humain de dire « donnez de la joie et vous en aurez », mais c'est qu'il y a aussi directement en Christ une nourriture de joie, de force et d'espérance qui nous est donnée d'une façon inconditionnelle. Il n'y a qu'à, jusqu'à s'approcher, je dirais, le barbecue est prêt, venez, car tout est prêt. Et donc, il y a vraiment dans cette présence du Christ, là, de ce texte magnifique, une promesse merveilleuse qui fait qu'il n'y a même pas d'enjeu de se dire « il faut que j'arrive à donner de la joie aux autres, il faut absolument que j'y arrive ». Même si vous n'y arrivez pas, approchez-vous du Christ, il vous donne à manger et c'est tout. Mais en même temps, j'ai l'impression que je reste un petit peu, quand même là dans une petite leçon, sauf à la fin, mais une leçon un peu humaine. Et on peut peut-être aller plus loin. Parce que quand on parle de pêche, je vous ai dit, c'est de chercher des parcelles de vie pour les donner aux autres, mais ça n'est pas que ça. Pêcher dans la Bible, ça me fait penser à cette phrase avec laquelle Jésus a invité Pierre à le suivre, quand il lui dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et donc je comprends ça, toujours dans ma logique de l'eau qui est le symbole de la mort, c'est de ramener des êtres vivants qui sont au fond du désastre pour les amener à la lumière et à l'air libre, c'est-à-dire arriver à sauver des vies, autrement dit. C'est ça, c'est une pêche positive. Bon. Et donc il l'invite à sauver des hommes. Mais peut-être que donc dans cette pêche miraculeuse, ce n'est pas juste de trouver des parcelles de joie à partager, c'est vraiment d'aller sauver des êtres humains entiers, voyez-vous. Et ces poissons ne sont peut-être pas simplement ces parcelles de joie que je donne, mais ce sont des êtres humains entiers que je peux rencontrer autour de moi. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, je ne crois pas, après réflexion, je ne crois pas qu'il s'agisse là du salut éternel. Nous ne sommes pas convoqué pour sauver les gens, je dirais. Qui sauve ? C'est Dieu seul qui nous sauve. Et quand Jésus appelle Pierre en disant « Je ferai de toi pêcheur d'hommes », c'est pas pour sauver éternellement les gens qu'il va rencontrer. Pierre ne sauve personne. Le seul qui sauve, c'est Dieu. Et donc nous sommes, je dirais, nous sommes tous sauvés. Ça n'est pas le problème. Dieu sauve tout le monde. Mais ce que j'expérimente, c'est que même si je suis sauvé, tant mieux, parfois je suis quand même dans le noir. Et donc comment aider à tirer les êtres hors du noir? Comment, pas simplement leur donner un peu de chance, mais comment vraiment arriver à revitaliser des êtres qui sont au fond du trou? Comment arriver à tirer du noir, de la mort et de l'obscurité, des êtres qui sont perdus, et comment les amener à de la joie et de l'espérance? Alors là, regardez la méthode de Pierre. Pierre est formidable. Il faut regarder exactement comment il s'y prend pour arriver à sauver plein de gens, faire plein de bien autour de lui, dirais-je. La première chose, c'est qu'on nous dit qu'il se revêt car il était nu. Alors il se revêt, donc pour ça il faut mettre plusieurs choses. Soit c'est que, ben, il met sa tenue de travail, comme moi pour prêcher, j'ai mis ma tenue de travail, voilà. Et puis j'ai mis, comme il se doit, une ceinture, parce que la Bible, on dit que vos reins soient sains pour aller travailler pour votre Seigneur. Et donc il met sa ceinture pour aller au travail. Pierre se dit, il y a du boulot, j'y vais, je m'habille, je mets mes gants de travail, je mets ma cotte de je sais pas quoi, ma blouse d'infirmière, ma tenue de médecin, ma casquette de chauffeur, ce que vous voulez, je me mets au boulot. L'autre chose, c'est que s'il se vêt alors qu'il était nu, là encore, bon, petite leçon de symbolique biblique, la nudité dans la Bible, ça n'est pas très positif. C'est considéré comme plutôt être nu, c'est exposer à tout le monde son imperfection. Parce que sauf certains, en tout cas, si je me mettais tout nu devant vous, vous ne trouviez pas ça très beau. Donc j'ai mis une belle robe pour masquer ma nudité et pour vous éviter, je dirais, une expérience désagréable. Voilà. Et donc je sais que je suis imparfait, je sais que je ne suis pas beau, alors je me soigne. Et donc c'est ça l'habit, c'est d'avoir conscience de son imperfection et d'essayer de faire en sorte que sa propre imperfection ne nuise pas aux autres et de ne pas imposer son imperfection aux autres et de faire en sorte qu'elle ne blesse pas les autres. Ça, j'aime ça parce que la Bible ne nous demande pas d'être parfait et elle ne dit pas « soyez parfait, soyez gentil avec tout le monde ». Elle dit « écoutez, connaissez vos faiblesses et débrouillez-vous pour les emballer de façon à ce qu'au moins ça ne fasse pas de dommages aux autres. » Et donc, gérez cela. Ça s'appelle la confession des péchés. « Oui Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, et donc je suis humble, et je reconnais mes faiblesses. Je ne me présente pas à toi comme le phénix des hôtes de ces bois, comme le sauveur du monde, mais je me présente à l'autre qui est dans la difficulté, en disant, je ne suis pas formidable, je ne suis pas Jésus-Christ ni le Sauveur, et je suis même très imparfait, et je le reconnais. » Je pense effectivement qu'on ne peut vraiment aider quelqu'un dans ce monde que si on reconnaît ses faiblesses, et que si on se présente aux autres comme étant le meilleur du monde, on n'aidera personne. Après, Pierre se jette à l'eau. Bon, ça, pas besoin d'avoir fait beaucoup de symbolique biblique. Il se jette à l'eau, ben oui, il faut y aller. Ça n'était pas évident, vous savez que les Juifs ne savaient pas nager. Donc c'était quand même compliqué. Se jeter à l'eau, c'est un vrai signe de foi. Et se jeter à l'eau, c'est arrêter d'avoir ces petites préventions craintives en se disant, mais j'ose pas, mais c'est ce que je vais y arriver, etc. Allez, il y a quelqu'un à aider, tu y vas et puis c'est tout. Tu te jettes à l'eau, il faut y aller. Il faut y aller avec confiance, je dirais, et vraiment se dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de s'engager. C'est se plonger dans la grâce de Dieu, avoir confiance en Dieu, quitter ses petites protections, c'est croire dans la grâce et dans l'amour de Dieu, se jeter à l'eau comme on est pour servir le Christ, ça c'est bien. Et puis peut-être que se jeter à l'eau, dans ma logique, c'est pour sauver les gens qui s'y trouvent. Donc vous avez des gens dans la difficulté, eh bien jetez-vous à l'eau avec eux, c'est-à-dire aller là où les autres sont, partager leur vie, accepter de partager la peine, d'une certaine manière, de ceux que l'on veut aider. Mais ensuite, c'est encore une autre lecture de cette eau intéressante, c'est celle que donnent les pères de l'Église. Les pères de l'Église, quand ils interprètent ce texte, comme évidemment ils sont très attachés aux choses de l'Église, ils disent « Ah, Pierre se jette à l'eau, donc c'est comme s'il se replongeait dans le baptême, si vous voulez. » Ce baptême d'immersion, qui n'est pas celui que nous pratiquons aujourd'hui, qui est autre chose, mais le baptême d'immersion qui était le baptême pour le pardon des péchés. Et donc c'était, disent les pères de l'Église, d'accepter le pardon de Dieu. Et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Pierre qui se revêt, qui reconnaît sa faute, et c'est peut-être aussi d'accepter, malgré son imperfection, le pardon, et même si on n'est pas parfait, le fait que quand même on peut, je dirais, travailler dans ce monde, on peut être en relation avec les autres et qu'on a le droit d'exister. Et donc nous sommes effectivement à la fois de pécheurs et pardonnés. En tout cas, ce Pierre qui se jette à l'eau, c'est, je crois, la démarche fondamentale de la foi qui est en même temps de se jeter dans la grâce de Dieu et de compter sur la grâce de Dieu, et aussi de se risquer dans la relation humaine et de se risquer là où sont les gens sur terre, ce qui est une autre manière de dire que nous devons à la fois aimer Dieu et aimer son prochain. Et puis pour finir donc, on nous dit que Pierre et les autres ramènent 153 poissons. Cela est évidemment à intriguer tous les théologiens, mais aujourd'hui, on s'en tient habituellement à l'explication de saint Augustin, qui n'était pas un imbécile. Pourquoi 153 ? C'est pour dire, d'après saint Augustin, il dit, c'est parce qu'à l'époque, on connaissait 153 sortes d'espèces de poissons. 153 espèces de poissons, ça veut dire qu'ils ramènent de tout. Voilà, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est confirmé par le fait que si vous êtes mathématicien, 153, c'est si on le découpe en nombres premiers, c'est 3 fois 3 fois 17. Ah, je retiens 17. Et c'est aussi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 16 plus 17. Ah, c'est aussi la somme des 17 premiers nombres. 153. Et donc 153, c'est une façon de dire 17 pour ceux qui aiment les nombres. Et 17, ce sont les 17 nationalités citées dans les Actes des Apôtres au moment de la Pentecôte. Donc c'était l'ensemble de l'humanité. Donc saint Augustin dit cela et il a raison. 153, ça veut dire tout le monde. Autrement dit, il n'y a aucune ségrégation. Tout le monde est accueilli pour être sauvé et pour accéder au banquet de Dieu. Il n'y a aucun rejet de qui que ce soit. Et puis une fois accueillis, donc nous sommes invités à aller sur la berge, sur place, pour partager ce banquet communautaire, ce moment extraordinaire d'une joie partagée dans l'amitié et dans la fraternité, où chacun mange ce qu'il a apporté et partage ce que les autres ont apporté, avec en plus toutes les denrées merveilleuses qui sont celles que Jésus lui-même nous a offertes, et c'est ce pain de vie et ce poisson de la joie qui nous est donné dans toutes circonstances par ce Christ ressuscité qui toujours nous accompagne et nous attend sur le bord de la plage, quoi que nous fassions. Amen.